Qui a englouti qui a coulé le centre parce que il y a eu voilà le fric est parti dans le film et en gros les élus ont tout arrêté et ça a été fermé, terminé. Ils n'ont pas renouvelé les subventions et mais tout le monde y est passé, Godard y est passé, Comouli y est passé, enfin il y a des tas de gens qui passaient au colloque, discuter, montrer des films, regarder des films.
C'était un peu d'effervescence quand même.
Ouais, voilà, tu voyais des films que tu n'avais jamais vus de nulle part, des Américains ou des Américaines qui faisaient du cinéma expérimental, qui amenaient des bandes ou des trucs complètement qu'on n'avait jamais vus, tu vois, je veux dire, voilà, qu'on pouvait voir où. Qu'on pouvait voir, qu'on voyait pas au cinéma et qu'on pouvait voir que dans ce genre de lieu. Moi je me rappelle avant.
Ma ville. Tu vois, les premiers froids ont chassé tes faux amis de passage. C'est la morte saison. Alors tu me reviens. Sans grimace, sans grimage. Vivante. Marseille de tous les temps. Marseille de tous les jours.
Par contre, le travail avec les politiques est plus intéressant, beaucoup plus, même si on a affaire à partir de zéro, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a liquidé l'expérience de René Alliot sans faire de bilan, une culture du cinéma en dehors de Paris a du mal à se déployer. Et elle est toujours à reprendre à zéro. Alors, à la fois, c'est comme à chaque fois des terres à défricher, donc il y a du bien, et puis l'absence d'acquis a quelque chose de lourd. Toujours labourer la terre comme si rien n'y avait jamais été cultivé. Donc voilà, ça c'est à la fois l'intérêt, la difficulté du travail avec les élus. Moi je voudrais qu'il y ait des bilans qui soient faits des politiques culturelles, notamment depuis qu'ici ont été créées des aides au cinéma conséquentes, très importantes dans les années 2000, en 2002-2003, et qui sont manipulées, détournées. C'est à la limite de la légalité, ça mériterait, si on avait du temps à perdre, de se retrouver au tribunal administratif. Il y a détournement des principes, détournement des déclarations. Quand Vauzelle fait des déclarations tout à fait intéressantes sur la démocratie, comme il le fait en ce moment, mais même quand il a créé les aides au cinéma, il s'était impliqué personnellement. Tout ça est très intéressant et balayé par les services culturels qui eux se font sous-traitants du CNC, de la politique du CNC qui est immuable, qui a raté le train de la vidéo, qui a raté toutes les évolutions artistiques et culturelles du cinéma, qui ont fossilisé le cinéma français, et qui viennent racketter les provinces, qui ont mis toutes les provinces françaises ont injecté, je ne sais plus combien, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais des sommes considérables dans la production cinéma, et évidemment les industries, le grand lobby du cinéma français, du vieux cinéma français, veut remettre la main sur ce pactole. Et il n'y a plus du tout là de rapport au territoire. On nous vend vaguement là une étude une étude bidon, qui est une opération de lobbying de la Chambre de commerce, pour dire que le cinéma facilite le tourisme, et donc que tous ces investissements-là, si on met de l'argent dans le cinéma, ça va faire tourner la machine à tourisme. Bon, tout ça repose sur absolument rien. Les chiffres sont faisandés, ils sont tirés des dossiers prévisionnels des productions qui sont eux-mêmes bidonnés pour faire croire qu'on va dépenser l'argent en province. Donc tout ça, c'est du flanc, c'est du lobbying, c'est vraiment la politique du CNC sous-traitée au service culturel des régions.
En un sens, voyez-vous, la peur est tout de même la fille de Dieu. Rachetée la nuit du vendredi saint. Elle n'est pas belle à voir, non. Tantôt raillée, tantôt maudite, renoncée par tous. Et cependant, ne vous y trompez pas. Elle est au chevet de chaque agonie. Elle intercède pour l'homme. Car il y a la règle et il y a l'exception. Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. Tous disent la règle. Cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas. Cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski, Cela se compose, Gershwin, Mozart. Cela se peint, Cézanne, Vermeer. Cela s'enregistre, Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre, Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture d'organiser la mort de l'art de vivre, qui fleurit encore à nos pieds.
Les chiffres montrent que les sommes globales augmentent, mais qu'il y a un glissement de ce qui est le cinéma, de ce qui allait au cinéma indépendant vers l'industrie fossilisée du cinéma français qui plaît au CNC. Donc ce glissement est tout à fait néfaste, contraire à la dynamique du cinéma qui vient d'en bas, qui va se développer comme s'est développé le hip-hop. On dit maintenant être une grande industrie, une des principales industries de la musique, mais qui est venue d'en bas, d'une auto-formation, d'une auto-production. Et c'est ce cinéma-là qui est dynamique, c'est ce cinéma-là qu'il faudra aider. Et on en revient à, sur les trois dernières années, là, on va publier sur notre site les chiffres, contrairement à ce que disent les services culturels de la région, les aides au cinéma ont augmenté, mais vers les gros budgets. C'est relatif, les gros budgets, hein. Il manque les paliers du bas, on appauvrit le cinéma pauvre, on enrichit le cinéma riche. On enrichit surtout le cinéma qu'on n'a pas besoin, parce qu'il est fossilisé, et on appauvrit le cinéma dynamique, la production indépendante, enfin on essaye de l'appauvrir, elle explose, elle est en plein développement. On ne veut pas voir, c'est juste du détournement d'argent, c'est sans objet, sans rapport au cinéma.
Il y a cette forme de films, et notamment qui passaient par un financement à la télévision, etc., je pense que c'est en bout de course, quoi. Il n'y a plus de soutien pour ça, ni à la télévision, ni même au niveau des conseils régionaux, et des choses comme ça, hein. Je veux dire, au niveau de la région ici, je veux dire, ça se marginalise complètement, je veux dire, ça intéresse plus personne. Les aides à l'écriture, aux documentaires sont considérées comme de l'argent perdu, et vont sans doute être supprimés pour être pris en charge uniquement au niveau du CNC, donc idem pour les aides au développement. Il n'y aura que le CNC qui en donnera. Et les aides à la production n'augmentent pas, réduisent. Hein, dans le budget de la région, la part du documentaire, des aides au documentaire a vachement réduit. Elle est passée de 20% à 12%, hein, en 3 ans, les 3 derniers.
Suzelle, Targini, David, on est 4 sur le plateau plus Laurent. C'est une première pour nous, on est un peu flippés, hein, quand même. Hein.
Ouais, il y a beaucoup de réflexions là.
Ouais, on va essayer de détendre l'atmosphère quand même, parce que c'est du lourd, hein, ce qui vient de se dire là sur ce témoignage. Vous aurez les noms, si vous voulez, de ceux qui n'auraient pas reconnu les voix. Vous aurez les noms de ceux qui sont dans ce petit montage, donc de ceux qui poussent des coups de gueule vrais. En tous les cas, il y aura les liens. Bref, on en reparlera. On enchaîne directement avec cette question qui nous paraît essentielle et qui est le cœur de ce désir d'émission qui est le cinéma indépendant. Alors on a avec nous donc Suzelle Roche et Darjeeling Bouton qui sont deux réalisatrices du coin qui sont proches de nous, en tous les cas on se connaît. Et donc on avait envie d'entamer cette première émission qui vous le verrez fait partie d'une série d'émissions qui se déclineront autour de la Méditerranée. On avait envie de vous poser la question directe de ce que pouvait être, ce que pouvait représenter pour vous l'idée d'un cinéma indépendant.
Moi, ce que je peux dire déjà sur ces deux mots, c'est vrai que je ne sais pas si je fais forcément du cinéma, c'est pas forcément toujours une question que je me pose, j'essaye de faire des films. Et indépendante, c'est vrai que c'est un état d'esprit, mais j'ai l'impression que c'est surtout une conséquence de certains choix. J'ai pas toujours envie d'être indépendante ou on va dire seule. mais c'est les choix de mes films qui m'amènent souvent finalement à une logique d'indépendance. Alors qu'est-ce que c'est plus généralement que de ma propre expérience, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui le cinéma indépendant? Moi j'ai l'impression que c'est, bon peut-être de tout temps, hein, ça a été, depuis que le cinéma existe, peut-être un cinéma de recherche, donc un cinéma qui prend des risques. Et bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le risque ne paie pas. Je ne sais pas s'il a payé un jour, mais si on veut se lancer dans une recherche, on va dire par rapport à un sujet, on se pose une question et on se demande qu'est-ce qu'on pourrait... est-ce que le film va pouvoir, en filmant, en rencontrant des gens, en cherchant en images, en rencontre... Est-ce qu'on va pouvoir répondre à une question? Et est-ce que si on met ça dans un synopsis ou dans un dossier pour demander de l'argent, on va nous répondre que les financeurs ne cherchent pas des questions mais veulent des réponses. Et donc on ne nous laisse pas tellement dans la recherche le temps de la réflexion. En fait, la recherche, elle dure le temps de l'écriture.
Justement, t'abordes à la fois la question de, en fait, de l'indépendance dans la forme et aussi dans ce que ça signifie pour soi en tant que cinéaste. Les deux sont importants.
Tu veux dire la forme et le fond?
C'est-à-dire jusqu'à quel point tu penses aujourd'hui que tu peux faire le cinéma que tu as envie de faire. Ouais. Est-ce que tu arrives, est-ce que tu peux le faire aujourd'hui, le cinéma que tu as envie de faire?
Ben, c'est vrai qu'en plus, comme c'est. Enfin, moi je considère que c'est un luxe de rechercher quand même. Même si aujourd'hui je vis avec peu de moyens, j'ai l'impression que je vis dans le luxe parce que c'est un luxe de réflexion. Et voilà, et tu me demandais quel était. Comment je me débrouille pour faire ce cinéma, c'est ça?
Ouais, quelle forme tu t'autorises d'aller jusqu'à où? Parce que tu parlais de ces contraintes de dossier.
En fait, c'est que j'ai du mal à répondre à cette question parce que je m'autorise. Je ne sais pas, à partir du moment où je travaille sur un film, je ne sais pas jusqu'à où ça va aller, quelle liberté au final ça va prendre. Et c'est ça qui est superbe. C'est souvent, moi, je travaille beaucoup quand même en filmant tout en écrivant. Et en tout cas pour le film que je travaille actuellement, c'est vraiment en posant les images sur la timeline, en les regardant autrement, en les réfléchissant, en voyant vers où elles vont, que je découvre en fait la liberté que je souhaite prendre. C'est vraiment en le faisant que je découvre la forme aussi et que je découvre la liberté que je souhaite. C'est pas des postures au préalable.
À écouter certains diffuseurs ou certains financeurs, on nous demande à un moment donné d'avoir une emprise et une maîtrise en fait sur le sujet ou l'objet filmé. Et c'est vrai qu'en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on se laisse guider aussi par le film, on se laisse guider par les gens qu'on filme. Et en fait, c'est cette liberté-là qui fait que ça peut nous amener à des dérives, à des va-et-vient, des ruptures, des choses assez finalement houleuses et qui peuvent nous faire perdre pied par moments. Mais aussi, c'est aussi un moteur, ça, en fait. C'est une liberté, enfin une fausse liberté peut-être. Mais et du coup, moi, ce que je me dis là, en fait, c'est très simple. C'est tout simplement, à un moment donné, donc c'est le guide, c'est le film qui guide. Et qui guide aussi sa propre économie. Et ça, c'est vrai que finalement, on se fait avoir quand on démarre, ou même, je pense, quand on commence à avoir des acquis, justement. C'est qu'à un moment donné, on décide de prendre le chemin classique de la production. C'est plutôt rassurant. Enfin voilà, on l'a tous fait. On s'essaye tous à ça. Et parce qu'il faut aussi se rendre visible. On ne peut pas disparaître de cette scène-là, quoi. Et il ne faut certainement pas faire disparaître les images et les sons que nous, on veut donner à voir et qu'on cherche. Mais en même temps, c'est vrai que c'est... on se posait la question du producteur aussi, le choix du producteur et quelle entente possible avec un producteur. Alors ça aussi c'est pluriel, c'est multiple, il n'y a pas un type de producteur, mais c'est vrai que moi ce que j'attends d'un producteur maintenant, réellement, c'est si j'y ai recours, c'est qu'il soit inventif et qu'il propose une véritable économie propre à ce film-là et pas un autre, quoi.
Alors partons d'une expérience, enfin de vos expériences peut-être personnelle en fait sur vos films. Mmh. Comment par exemple toi Suzelle sur...
Attends, je voudrais juste, je te coupe juste pour continuer avant. Moi je trouve ça intéressant ce que tu disais, parce que moi ça, je suis d'accord sur les producteurs où il y a l'exigence de leur dire inventer des chemins. Mais il y a aussi par rapport aux institutions où finalement on voit qu'on est chaque fois dans du leurre, puisqu'on nous dit qu'il faut écrire le film comme s'il n'avait jamais été tourné. Et comme tu dis, finalement, on est de plus en plus, nous, dans des pratiques où bah, les films, ils sont tournés, c'est après qu'on les écrit, que ce soit bien ou pas bien, c'est une réalité, quoi. Et ça a l'air d'être une expérience, ta pratique. Oui. Est-ce que sur le film que... t'as produit, l'Apollo, t'étais dans cette pratique-là?
Bah, c'est vrai que c'était un peu particulier, là, parce que là, donc on parle d'un film que j'ai réalisé en 2007-2008. C'est vrai que les années se sont étendues, je pourrais même dire peut-être 2007, 2006, 2010, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Et en tout cas, c'était un film qui portait sur l'ancien maire de Marseille, Robert-Paul Vigouroux, à partir des archives municipales de l'époque, donc un caméraman officiel qui filmait le maire, Robert-Paul Vigouroux. Donc je travaillais sur ces archives, mais aussi en les confrontant, en les faisant rencontrer avec les textes que Robert Vigouroux avait écrits sous pseudonyme pendant le temps de ses mandats. Et donc voilà, ça c'était le film, Polo et les professionnels, donc un film on va dire politique, au sens large, hein, parce que c'est vrai que ça parle d'un homme politique, mais ça parle aussi un peu du vivre ensemble. C'est vrai que moi je ne souhaite pas cloisonner les visions des choses. Donc un film politique, bon il y avait déjà eu du monde sur le terrain, on va dire, et comment le faire financer, c'est vrai que... assez vite. D'abord, moi, j'ai voulu jouer le jeu des télés. Moi, j'ai longtemps travaillé, j'ai travaillé, on va dire, 5-6 ans pour France 3 comme journaliste. Donc, je continue à penser que c'est intéressant de s'adresser à un large public de la télé. Et là, notamment pour Polo, j'avais envie de jouer le jeu, de proposer ce film à la télé, même pour entendre un refus, quoi. Hein, parce que le refus m'intéressait en tant que tel. Il n'est pas innocent, il parle de quelque chose. Donc, j'ai joué ce jeu-là et c'est vrai que, bon, personne n'en a voulu. En tout cas, pas au niveau des chaînes locales. Et donc sur le coup, ça a vraiment été une logique de production indépendante, dans le sens où je me suis aidée de ce collectif là pour lequel je travaille qui s'appelle Caillou, et puis de producteurs plus ou moins généreux qui voulaient m'aider, m'a dit on fait du mécénat. Bon, j'ai rencontré quelques gars comme ça très sympas, mais qui ne pensaient pas du tout revenir sur leur investissement, quoi. C'était pas du tout une logique comme ça. Et pour revenir vraiment à la question de l'écriture sur ce film, j'avais pu bénéficier aussi d'un temps d'écriture au Moulin d'Andé. C'est un centre d'écriture cinématographique qui se trouve en Normandie. Et c'était très, très intéressant parce que pendant 2 ans, j'ai fait plusieurs petits séjours de 2 mois au total où j'ai pu prendre le temps de poser et d'écrire. Et là, sur ce documentaire, donc, c'était quand même essentiel. C'était le sujet qui m'y a mené parce que d'abord, concrètement, pour pouvoir parler de Vigouroux, de cette époque de Marseille, et pouvoir après essayer de lancer des réflexions, il fallait quand même extrêmement bien connaître le sujet et plonger dans ces heures et ces heures d'archives. Donc là, la résidence et l'écriture m'a vraiment aidé à structurer et à m'aventurer. Ça m'a amené le temps d'écriture. À ce moment-là, bon, ça a pris 2 ans, hein. J'ai eu le temps de réfléchir. Ça n'a pas été. D'ailleurs, en fait, j'ai eu une aide avant de commencer à écrire au Moulin d'Andé. Et après 2 ans d'écriture, je n'ai plus eu d'aide d'écriture. Hein. Je n'ai plus eu aucune aide. Hein. Donc la réflexion n'aide pas à trouver de l'argent. Hein. Ça, c'est certain. Moi, c'est ce que m'a appris ce film.
Et tu vivais de quoi alors?
À l'époque, je pense que j'étais. J'étais intermittente un moment. J'ai fait donc pour finir mon statut, j'ai fait de la figuration. C'est intéressant aussi hein, de se retrouver dans différentes positions dans le spectacle, de se retrouver à la place du mobilier par exemple dans une dans une fiction qui passe sur M6. Et voilà, c'est intéressant un temps, mais après je me suis dit j'avais envie de consacrer peut-être plus mon énergie à autre chose que d'essayer de trouver des cachets. Donc je me suis embauchée un moment avec ce collectif Caillou, des emplois aidés. Et puis donc ça c'était comme ça, c'était donc assez précaire, mais ça m'a permis quand même d'avoir le minimum pour réfléchir et prendre mon temps.
Donc c'est comme ça que tu as été jusqu'au bout de ce film, en fait.
Oui, voilà, c'est
donc
ça.
Donc en étant, en travaillant, est-ce que tu as été amené à travailler avec d'autres personnes? Est-ce que c'était une expérience solitaire ou au contraire?
Non, voilà, parce qu'au Moulin d'Andet, en fait, le principe, c'est qu'on peut bénéficier d'un suivi, d'un référent, il y en a qui disent le vis-à-vis. Et là, c'était en l'occurrence Catherine Ermakoff, qui est scénariste, qui travaille sur des fictions ou sur des documentaires. Et ça a été une très belle rencontre, parce que franchement, c'était très étonnant. Le dossier que j'avais, je leur avais fait parvenir, le premier dossier d'écriture sur Vigouroux, sur Polo et les professionnels, et ben, j'ai vu cette femme la voir entre les mains, et elle m'en a parlé, elle m'a parlé de ce que j'avais écrit pendant 2-3 heures.
Comme tu habites sur Marseille, est-ce qu'à Marseille, tu t'es senti aidée par d'autres collectifs ou,
Je connaissais mal le milieu. Je ne sais pas si je le connais bien maintenant, mais en tout cas, je connaissais mal le milieu parce que, comme je disais, je venais quand même de ce milieu de la télé qui, comme tous les milieux, enferme dans les relations. Et donc, j'ai eu quand même l'occasion de le montrer à certains, de pouvoir faire visionner des prémontages, et puis aussi de l'ouvrir vraiment, parce que là encore, c'est une de mes préoccupations, c'est de ne pas m'enfermer dans un milieu, dans un secteur. Je ne voulais pas sortir du milieu du journalisme pour entrer dans un milieu fermé de réalisateurs. Donc, l'idée, c'était de montrer les prémontages grâce au président de Caillou, Michel Montagne, pour ne pas le nommer. Et ben, on a pu montrer ce film à plein de gens très différents. Des gens qui n'avaient aucune culture cinématographique, des gens qui en avaient, et ça, c'était chouette, parce que en fait, ça m'a permis de savoir comment cette forme expérimentale que j'essayais de sculpter, et ben qu'est-ce qu'elle disait à des yeux extérieurs. Mmh. Voilà, c'était ça, c'était pas pour savoir ce que j'allais faire, mais comment ce que je posais déjà était interprété.
Donc quelle a été la vie de ce film, en fait, et avec combien d'argent tu l'as fait au final?
C'est difficile parce qu'après, tu vois, le temps de résidence, je ne sais pas si on peut le budgétiser, tout ça. Je vois mon fichier Excel là, qui s'ouvre, clic-clic. Non, mais on va dire qu'à l'époque, il y avait quelque chose quand même d'assez fabuleux. Il y avait une aide du Conseil Général. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être qu'ils ont cru que j'allais faire quelque chose de très policé. Parce que, bon, Vigouroux, il a surtout laissé pas mal d'ennemis. Donc, ça aide pas pour avoir des aides. Parce que les aides, elles sont quand même toujours un peu dépendantes des politiques. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en tout cas, j'ai eu une belle aide de 9000 euros. Et ça, ça m'a permis de faire Moulin d'Andet. C'est vrai que tu me demandais comment j'avais vécu. Ça, c'est sûr que ça m'a permis d'accorder un peu et du temps et des moyens à ce film. Bon, après, ça ne suffit pas pour faire un film. Hein, mais ce qu'il me fallait, c'était du temps et de la réflexion avec le Moulin d'Andet. Je l'avais. Et puis après, j'ai trouvé des espèces d'anges gardiens. Une boîte de prod qui s'appelle La Belle Télé, Zach El Moustafir, qui m'a dit: Suzelle, j'y crois pas du tout à ce que ce film soit un jour passé à la télé, mais je t'aide. Voilà.
Il a été vu où, du coup?
Alors, il n'a pas tourné dans salle, hein, il n'y a pas eu support pellicule, mais dans plusieurs petites salles de projection. Enfin, ça n'a pas été cinéma, quelques festivals. Et puis aujourd'hui encore, puisque par exemple, il va passer, je crois, le 1er octobre à la Maison de la Région dans le cadre du Festival Femmes Méditerranée. Et puis après, moi, il y a quelque chose aussi qui me plaît. Alors, j'aborde peut-être un autre sujet, puis je tiens le micro, là, je suis désolée. Mais c'est que on a fait une édition DVD. Et bizarrement, bon, c'est un film où je me suis permis beaucoup de flou, beaucoup de mouvements, donc c'est intéressant de le voir en salle, mais je suis toujours extrêmement gênée, j'ai l'impression de violenter les gens qui sont dans la salle, parce que y a peut-être une violence aussi quand même. Et donc, sur support DVD, sur un petit écran, mais ça, c'est une déformation qui est toute personnelle, hein, c'est parce que les premières choses que j'ai faites, c'est en passé sur un petit écran. Et donc, j'avais l'impression que par le biais du DVD, il y avait peut-être quelque chose de plus intime. C'est horrible, hein, ce que je dis, parce que vous êtes tous, je pense, des gens qui défendent vraiment la salle. Mais moi, j'ai l'impression que les retours étaient plus faciles des gens qui l'avaient vu chez eux, sur leur lecteur, que des gens qui l'ont vu en salle. Mais ça, c'est plus peut-être quelque chose de plus... Oui, non, mais après, c'est peut-être plus qu'on se permet moins de dire des choses lorsqu'il y a une grande projection, les retours sont plus conventionnels, alors que de la main à la main, quelqu'un qui l'a vu, il y a un autre relationnel qui va engager une autre sincérité.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où, effectivement, on peut dire ce qu'on pense quand on voit des films, c'est vrai. Darjeeling, en fait, toi, ton ton point de vue, enfin ton expérience en fait sur le, sur la production de ton film, sur la
l'angulaire.
Là, c'est vague, hein, là, ce que tu me demandes.
Bah, ton expérience perso, en fait, sur la manière dont on s'est conduit, en fait, ton film.
Tu en es où de l'angulaire?
Alors voilà, ben...
C'est un très beau nom.
Non, bah, je dirais que c'est parti d'un geste très spontané, un geste un peu de colère aussi, peut-être, parce que je sortais tout juste d'une expérience de montage assez... en co-réalisation, donc ça, c'était une expérience assez merveilleuse avec une très belle personne, donc... par contre, on a été assez brutalisés pour ce qui était du montage. Et donc, du coup, voilà, enfin, moi, il fallait que je prolonge ça et que je fasse mes propres armes avec le cinéma. Et donc, voilà, donc du coup, tout simplement, on fait des signes. Je sais pas trop ce que ça veut dire.
Non, mais c'est, on s'organise.
C'est-à-dire que tu as le droit de continuer de parler.
Et voilà. Et donc, du coup, voilà, geste très spontané, trouver un peu de fric, hop, des filles jeunes, c'est assez facile à monter. Comme dossier, donc voilà, acheter une caméra et y aller quoi. Et donc, sauf qu'en fait, j'ai été dans un lieu assez atypique, c'est une structure de soins qui existe, enfin, il y a deux lieux comme ça en France, qui s'appelle le bus Méthadone. Donc Méthadone, évidemment, invite à tout type de réflexion et surtout énormément de contradictions, de paradoxes, et donc moi, ça m'intéresse énormément tout ce monde qui drainait beaucoup d'ambivalence. Et donc voilà, et en fait, l'histoire de ce film, c'est de passer du temps, beaucoup de temps, de façon assez informelle, sans caméra, sans stylo, sans rien, de façon assez démunie aussi, et voilà, et très solitaire finalement. Et puis des personnes se sont greffées au fur et à mesure de cette histoire, et je pense avec pas mal de passion, et donc ça je trouve ça assez fort en fait. Je pense que c'est...
Et dans la réalisation, tu veux dire?
Ouais, en fait, en termes de production, de soutien à la production, donc m'aider à chercher des financements, des regards sur l'écriture, qui est assez une écriture assez alambiquée, assez nébuleuse, qui déroute énormément les institutionnels. Et donc voilà, et finalement, moi je pense que c'est... Voilà, c'est un film de... Enfin voilà, ça s'inscrit dans le temps, ça fait aller 2 ans et demi, je me fais beaucoup charrier là-dessus. En même temps, voilà, c'était fait d'aller-venue, de rupture, c'était très imbriqué dans, j'allais dire, dans ta vie personnelle. Enfin voilà, quoi, c'est... sans faire nombrilisme aucun. Et donc voilà, et que dire aujourd'hui? Ben si, c'est que voilà, finalement, on devient tributaire. Il y a eu voilà, une aide de la région minime de 5000 euros, aide à la production sans diffuseur. Donc voilà, et voilà, des dossiers, beaucoup de fric dépensé, beaucoup d'avance.
Beaucoup de temps, beaucoup de sueur, pourquoi
voilà. Moi, c'est vrai que je compte pas trop, ni le fric, ni le temps, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu, pour les producteurs, c'est super flippant. Mais c'est mon argent, en fait, au départ. Et donc voilà, et du coup oui, c'est ça, c'est y aller, ben là c'est le premier, donc c'est on y va et on peut se prendre des murs, enfin voilà, et puis peut-être que j'arriverai à épuisement, mais j'arriverai pas à épuisement, non, c'est pas possible, donc voilà, enfin.
Et pour toi, ce film, tu voudrais qu'il soit vu où et par qui?
Ah oui, voilà, attends, mais juste avant ça, c'est juste pour parler, enfin voilà, finalement je me retrouve un peu la corde, enfin je me retrouve un peu étranglée, parce que moi j'ai véritablement envie que ce film ait un bon montage, enfin qu'il y ait vraiment une vraie fouille archéologique des images et des sons. Et du coup voilà, en fait je cherche de l'argent pour payer
décemment. Darjeeling cherche de l'argent pour son prochain film.
Dis mon monteur là, non mais voilà, et en fait voilà, payer décemment les gens qui travaillent sur ce film. Non mais clairement, en fait c'est ça, moi la rigueur, que je me paye pas, que c'est pas une histoire de sacrifice ou quoi, mais je me suis lancée un peu à corps perdu là-dedans. Après voilà, enfin du coup il y a cette exigence là et cette réalité là quoi. Donc du coup, se retrouver à refaire des dossiers, se retrouver voilà, et qu'est-ce que ça veut dire que d'écrire un dossier de communication? Mais non, mais c'est pas de la communication, enfin il y a un dédoublement, enfin il y a une espèce de schizophrénie, enfin c'est assez déroutant ça aussi. Et voilà, là où on en est, et ça évidemment on le sait, il y a des personnes qui s'épuisent là-dedans.
Oui, on s'épuise tous hein, là-dedans.
Voilà, mais après, il ne faut pas non plus se victimiser. Tu trouves des souffleurs.
Il faut gueuler.
Hein ?
Il ne faut pas se victimiser, il faut gueuler. Non, mais parce que cette question de dossier, c'est quelque chose qui tue le désir beaucoup, entre cette difficulté...
On dit que ça sert vachement, en fait, d'écrire.
Ouais. C'est l'expérience de Suzel, pas toutes. Mais mes expériences, ça m'a tué d'écrire, même si bon, ça peut être important, mais que pour ceux qui ce cinéma indépendant, juste pour replacer les choses, il se finance, voilà, il s'est financé beaucoup par la télé à partir des années 80, quoi, on va dire qu'on s'est affilié à la télé. En 2000, bah, la télé, même avant, à partir de 95, la télé a resserré l'étau. C'était plus trop possible de faire du cinéma documentaire. Et, mais il y a eu les régions sont mises à financer à partir des années 2000, en particulier en région PACA, quoi, avec la création de l'association LARS, les auteurs, l'association des auteurs réalisateurs du Sud-Est, qui a réussi à négocier dans un rapport de force avec la région que
à la fois, des aides je crois à la création. Que LARS avait été créé aussi à l'initiative des politiques et de la région.
Oui, oui, dans un, justement,
vouloir pouvoir s'affranchir de sa propre
censure. Il y avait quand même un lien aussi, bon, peut-être
mais pas contourner les règles d'un système, négatif, franchir les barrages de la production.
Rapport.
Cela se paie très cher. Oui. Cela se paie du refus de la diffusion des œuvres, cela se paie d'un refus d'informer et du silence qui s'abat sur la création et sur son auteur, sur son existence même, mais sur la reconnaissance nécessaire de son travail.
Et pour finir sur ce truc de l'art, après la question du rapport ou pas, en attendant, ils ont réussi à négocier un point de vue politique, bah, que les cinéastes de la région soient de plus en plus pris en compte dans leur, leur possibilité de création, que ce soit par une mise en place d'une bourse de recherche, par la mise en place de l'aide aux films documentaires sans diffuseur télévisuel, où ils ont fait deux catégories et une aide aux documentaires à la production avec un diffuseur télévisuel. Ça, c'était dans les années 2002, où on avait des bourses d'écriture, des aides à l'écriture de 5000 euros, des aides au développement.
C'est des choses
un peu
qui se passaient dans toutes les régions en France. Aussi.
Oui, oui. Ouais, voilà. Et en région PACA, c'est arrivé en.
Le cinéaste qui se fait esclave de l'argent n'a.
Bon, je te censure, Fab. Voilà. Pour finir, juste ça, ces aides, en 2010, on les rend caduques. Après, ça arrive. Non, ça a commencé à disparaître dans la plupart des régions. Chez Catoulou, ça n'existe plus, l'aide aux documentaires sans diffuseur. Il y a d'autres, quelques régions qui existent, mais la région PACA, en 2011, une aide à l'écriture, en 6 ans, elle est passée de 5 6 000 euros à 2 000 euros. Une aide à la production dont Darjeeling parle, en 2005-2006, c'était encore du 15 ou 20 000 euros. En 2010-2011, c'est 5 000 euros. Donc on resserre encore l'industrie, les gros films, et puis...
Alors on revient à la question du collectif là-dedans, c'est-à-dire qu'on est chacun tous dans un travail qui, on dit que le cinéaste est un travail solitaire, hein, il est seul dans le montage de ses dossiers, de son film, etc. Je voudrais qu'on aborde un peu, enfin, donniez votre témoignage sur comment vous travaillez et à quel niveau de vos films vous travaillez donc avec d'autres gens, comment vous vous aidez du soutien des autres, peut-être en collectif. Toi, Suzelle, je sais que tu fais partie donc du collectif Caillou que t'as rejoint, que tu as créé. À quel niveau ça se situe, toi? Ça commence quand? Quand est-ce que tu as besoin de travailler avec d'autres personnes? Ça se situe au moment simplement de la production du film ou bien avant?
Non, c'est sûr qu'au moment où de l'écriture ou même des échanges d'idées, tiens, j'ai pensé à ça ou quoi, ça peut être utile. Mais en fait, moi, ce qui me nourrit plus comme pratique, c'est d'avoir quelque chose de plus manuel, parce que c'est pas de la pâte à modeler, mais de travailler les images, et du genre, ou de confier mes images à quelqu'un, ou de travailler les images d'autres personnes. Et que c'est là où, en fait, sans avancer vraiment sur un film, en avançant de façon générale sur ma pratique, de cinéma ou d'autres choses, et ben c'est vraiment en travaillant vraiment le montage, je vais dire, plus que toujours quelque chose de cérébral et de verbalisé.
D'accord. Alors, pour en revenir à cette expérience de Caillou, j'imagine que en dehors de la pâte à modeler, tu dois travailler. L'idée, c'est quand même que vous soyez effectivement dans une dynamique collective.
Oui.
C'est quoi pour toi travailler en collectif? Est-ce que ça, quel sens ça a aujourd'hui par rapport au cinéma?
Moi, ce que je dirais, c'est avant tout quelque chose de moral. Enfin, de moral. C'est pas une histoire de moralité, mais c'est de garder le moral, quoi. C'est ça. C'est presque en fait. Et se dire à un moment sur un film, sentir que même la personne qui travaille à côté de soi dans un local, par exemple celui qu'on partage au Parvis des Arts, et est intéressé. Alors comment ça va ton film, tout ça. En fait, c'est plus être sentir que à côté de soi, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ce qui est fait. Moi, je pense que c'est pas forcément un échange d'idées, mais c'est plutôt de l'ordre de l'énergie
aussi,
et du soutien.
Pardon, j'ai merdé, excusez-moi.
Oui, voilà,
et toi, Dargile, au niveau des collectifs?
Bah écoute, moi,
qu'est-ce qui te nourrit pendant toute cette création?
Ah non, mais là, ça risque d'être un peu... en fait, il y a aussi les personnes filmées. Enfin, je dirais que ça, c'est plutôt un carcan. Enfin, c'est assez étonnant, le rapport aux personnes filmées, de réussir à s'en détacher aussi, de s'en écarter. Bon, le truc, c'est que moi, l'objet que je filme, il est un peu complètement phagocyte et tentaculaire. Et je peux faire un pas dans toutes les rues de Marseille. Je rencontre toujours quelqu'un. Enfin, bon, voilà. Donc, ça te rappelle toujours, ça te ramène au film. Enfin, bon, voilà. Après, non, mais je pense... Enfin, là-dessus, j'ai pas vraiment grand-chose à dire, efficient, sinon que c'est des véritables... Enfin, moi, je marche au coup de cœur, quoi. Donc, c'est des rencontres, et d'ailleurs, des rencontres, finalement, qui, au départ, on se demande presque qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est croiser aussi, je crois que ce que j'aime, c'est aussi beaucoup la discussion, quoi. Enfin, il faut qu'il y ait une sensibilité commune, qu'il y ait un fond commun, qu'on s'entende pas forcément. Qu'il y ait une forme de lutte aussi. Et ça, je pense que c'est très bon pour un film, que ça travaille comme ça en télescopage.
Et pourquoi ça se passe à Marseille pour toi?
Ah, ben écoute, Marseille, j'ai atterri là il y a 10 ans. J'ai atterri là pour mes études. Voilà, j'étais prise dans cette drôle d'école. On fabrique des écoles d'art. Et en plus...
Et de documentaires,
en plus on a tout fait, quoi. Et donc voilà, et puis écoute, ben, c'est dur de partir de Marseille, j'avoue qu'il y a quelque chose un peu... Alors il y a cette forme d'inertie là, un peu de résistance par l'inertie, de... Voilà, en même temps on est un peu révolté, agité, c'est un peu une terre de tous les possibles, parce qu'on a l'impression que rien n'est fait, tout est à faire, enfin si, c'est chargé d'histoire, c'est chargé de ruines, c'est chargé de... Mais bon, et il y a des nouveaux arrivants, dont tu fais partie, David. Voilà.
Inch'Allah.
Tu vas rester un petit peu. Et donc voilà, Marseille, ben je dirais que ça aussi c'est un peu... Enfin, on s'entend un peu tous là-dessus, et c'est un peu chiant là de partir sur des trucs un peu consensuels, mais il y a une lumière qui t'accroche, il y a un côté un peu déglingué qui te tient là aussi. Et puis
c'est où les lieux où tu vas à Marseille pour voir des films et,
Alors voilà, au niveau des collectifs, bah écoute, moi je trouve qu'il y a, enfin ce que je trouve assez gênant, mais ça je pense que c'est propre à beaucoup de villes, c'est que plein de gens montent des petits collectifs, des petites assos, chacun dans son coin, et ça se multiplie, ça fait des petits. Et finalement, comment on arrive à se rencontrer? Il y a des gardes chapelle, des choses comme ça. Après, il y a aussi des lieux, comme par exemple... Enfin, le polygone étoilé monté par le collectif Film Flamme qui...
À la Joliette.
Qui, voilà, c'est un lieu où moi j'ai toujours gravité autour, toujours... Oui, voilà, moi avec le collectif, le rapport intime que j'ai avec le collectif, si ça vous intéresse, c'est que je peux pas mettre les deux pieds dedans, quoi.
Intimité, jamais, quoi. Intimité.
Après, par contre, monter quelque chose avec d'autres personnes, et ça, je pense s'y reconnaître à un moment donné, oui, mais arriver quelque part, moins. Et donc, les lieux pour aller voir des films, ben... Voilà, c'est donc le polygone étoilé, Ciné Dada, enfin je veux dire des trucs, qu'est-ce que...
C'est un peu léger à Marseille peut-être, à ce niveau-là on pourrait dire, je trouve, les possibilités de voir des films.
Oui, ben voilà, mais tu vois, on en parlait hier, Laurent, c'est que, est-ce que, donc beaucoup l'ont fait, des films en appart, un peu de l'entre-soi et tout ça, et moi j'ai envie, et c'est des choses qui se font ailleurs et qui sont faites à Marseille et qui se font encore, c'est voilà, à un moment donné, d'être un peu plus sur la place publique. Alors comment et quels moyens? Toi, tu dis l'avoir fait, David, d'être un peu épuisé. Ce serait bien que tu en parles, de finalement prendre un vidéoprojecteur un peu à la sauvage et aller projeter des films, je sais pas moi, dans des lieux qui sont des lieux qu'on a envie de soutenir, comme l'Entropie, l'Embobineuse, des lieux qui sont plus faits pour la musique, mais des lieux que moi je trouve assez politiques aussi.
Le risque de l'entre-soi.
Voilà.
La question du public.
Comment toi t'as vécu ça? Non, mais par exemple, tu parlais tout à l'heure de la question du public. Qu'est-ce que ça veut dire que le public? Et qu'est-ce que, enfin, le public, qu'est-ce que c'est, quoi? Et
puis dans les festivals, parce que juste avant pour te couper, la question du public, on diffuse aussi nos films en festival, quoi. Et là, moi, je trouve que la question du public dans les festivals, ça commence à faire peur un peu, quoi. Il y a beaucoup d'entre-soi, je trouve, dans les festivals. Alors la question de trouver d'autres façons de diffuser. Je trouve que c'est dur de sortir de l'entre-soi dans le cinéma, même qu'il soit indépendant. Après, je dis pas que c'est de la mauvaise volonté, il y a une réelle difficulté, quoi. Bon, il y a le polygone étoilé et d'autres lieux qui réussissent à toucher des choses un peu plus larges, mais les festivals, moi, j'en vois plus aucun, quoi, à ce niveau-là. Il y en a plus qui...
C'est vrai qu'on se fait en plus chier dans les festivals. Hein. C'est vrai que bon.
C'est où toi ? Hein ?
C'est dû à quoi ? C'est dû à que ça peut-être que ça a tendance à, je sais pas.
Les petits fours sont très mauvais, pas assez de champagne.
Où il y a peut-être. Alors il y a des choses très intéressantes qui s'y passent. Il faut aller, faut effectivement aller fouiller. Mais moi je reviens de l'USAS et.
On a dit qu'on donnait pas de nom, quoi. Fab, tu vas plus avoir de films qui vont être pris à l'USAS, Fab.
Ouais, bien,
mais on dira pas comment tu t'appelles, juste Fab.
Ouais, alors après, moi c'est honnêtement, c'est la première fois que j'y vais. On a mangé du raisin et des figues, c'était vachement bien. Mais
Bio, ouais.
Ouais. Non mais c'est. Voilà.
Est-ce que c'est la question des festivals ou est-ce que c'est la question des films qui se font ? Est-ce que c'est les films qui se font qui sont pas très passionnants ou est-ce que c'est les festivals qui retiennent que les films pas très passionnants ?
C'est des films, c'est à un moment donné, c'est que effectivement tu dépends de gens qui vont oui ou non retenir ton film. Il y a peu d'endroits, si tu veux, où tu pourrais partager effectivement des films sans qu'il y ait forcément une sélection des films qu'il faudrait voir. Quoi.
Mais en même temps, aujourd'hui, tout le monde peut faire des films avec les outils qu'on a. S'il fallait montrer tout ce que fait tout le monde, on passerait notre vie à regarder des images. Donc.
C'est juste le renouvellement, je pense, peut-être de certains critères et puis de certaines.
C'est quoi les critères à votre avis ?
Après, c'est vrai que si on commence à rentrer dedans, c'est même la question aussi des critères, par exemple, pour accorder des aides à l'écriture. Hein. On peut se casser la tête en se demandant.
Trop d'experts, tue l'expert,
voilà,
tue le cinéma,
et puis après,
tue.
L'expert, c'est souvent un grand mot, hein, surtout concernant la région PACA.
Ouais, en tant que statut
mais
social.
Mais Lo, si tu dis trop d'experts, tue l'expert, qu'est-ce que tu proposerais
une sélection avec un logiciel informatique, on fait une sélection aléatoire des 700 films. Et puis ça peut être une expérience.
Ça, c'est le loto par exemple qui marche
ouais,
comme ça.
Moi je suis pour un loto cinématographique. Ou alors on donne les films, c'est n'importe qui les choisit. Et même si c'est pas une expérience à reproduire, je trouve que déjà ça serait très riche comment ça nous interrogerait, nous en tant que cinéastes, nous en tant que sélectionneurs, nous en tant qu'experts, d'un moment que ça soit d'autres quoi, qui nous renvoient un peu. Parce que l'expert, c'est un gros mot, mais plein de choses, mais à un moment, moi chaque fois que je projette des films, les retours les plus pertinents que j'ai, mais c'est la plupart du temps, c'est les retours des gens qui voient pas de films presque. C'est-à-dire c'est
ouais,
ceux-là qui sont le plus sensibles, qui me remettent le plus en question dans la façon dont j'habite le monde.
Je suis pour pas la sélection des films par tirage au sort, mais la sélection des experts par tirage au sort.
Ah bien.
Mais je suis pour tous les tuer.
Ou alors, ouais, non, mais
on va peut-être.
Le problème. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens
qui ont
fait des dépressions à la suite du feed. Parce qu'ils n'ont pas vu le film sélectionné à la fin,
oui,
le film qui a gagné.
Je sais.
Le film qui a gagné, donc t'as loupé le film qui a gagné, t'es vraiment mal quoi.
Il y a un truc, excuse-moi, je deviens sérieuse, mais c'est juste, voilà, moi je sors d'une expérience, une première expérience de sélection pour un festival. Justement, j'étais partie pour interroger ça, qu'est-ce que ça veut dire que sélectionner tout ça, on n'était pas experts.
Les inattendus pour pas les nommer.
Voilà, à Lyon. Et voilà, on s'est tous maté, chacun maté une centaine de films, je vous dis pas le nombre d'heures que ça représente, chacun isolé dans son coin. Quand enfin on a mis ça en commun, c'était vachement plus intéressant, beaucoup plus vivant, bien évidemment. Et le truc, c'est que, voilà, enfin, à un moment donné aussi, il faut voir quelque chose, c'est que tu défends quand même sans faire, sans non plus devenir élitiste ou quoi que ce soit, mais tu défends quand même pas des valeurs, certainement pas, mais. Un cinéma, des cinémas, enfin, il faut voir ce qui est arrivé sur 700 films, Lolo, ce qui est arrivé sur 700 films, il y avait des films à gros budget, des courts-métrages, mais insensés, avec des scénarios pas possibles, avec des équipes pas possibles.
Oui, d'accord.
Et à un moment donné, tu peux pas.
Tu penses que ce serait pas bien de démontrer.
C'est complètement irresponsable pour moi. C'est complètement irresponsable, je veux dire, à un moment donné, on est expert de rien du tout, on est juste spectateur.
Ça dépend, tu vois, c'est complètement. Moi, je serais d'accord avec toi. Mais après, j'ai envie de pousser en disant le problème, c'est qu'on sait même plus parler devant les films. Tu vois, ça serait irresponsable. Ce que je trouve encore plus irresponsable, c'est quand on voit des films, et c'est ça qui est dur dans les festivals, qui valent rien et qu'on est incapable et qu'on n'a pas les moyens et ni plus la culture de dire putain c'est de la merde.
T'as tout à fait raison.
Tu vois, c'est en continuité avec ça. À lui ça, c'était dur de voir ça, genre.
Effectivement, les gens ont le courage de se barrer pendant une séance, mais effectivement, pour parler après une séance, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Comment dire ce qu'on pense d'un film, c'est difficile.
Et toute l'approche des festivals. Il faut que les festivals se remettent en question ou que les cinéastes remettent en question les festivals. Ces cinéastes qui viennent d'en bas. Les festivals ont toujours été soit les relais des
syndicats d'initiative, des maisons du tourisme, soit les relais du CNC, et des télévisions, même pas du CNC, des télévisions. Là, il faut balayer, c'est un autre niveau d'expert. On ne peut plus être dans la situation où un festival va faire ses courses dans un autre festival qui va faire ses courses dans un autre festival qui va faire ses courses à Cannes. On ne peut plus être là. Les festivals doivent être le lieu, s'ils veulent encore avoir une fonction, où les cinéastes qui viennent d'horizons multiples peuvent se rencontrer. Les festivals doivent être le lieu où tous les films doivent être vus. Ils n'ont plus du tout cette fonction élective, sélective, qu'ils avaient à l'origine. Ils veulent tous être le festival de Cannes. On n'a plus rien à battre. C'est pas ça l'objet du cinéma actuellement. C'est que tout puisse se montrer et surtout tout puisse entrer en dialogue, en polémique, en conflit. Tous les films doivent pouvoir se voir.
Bon, c'est la télévision, c'est pas complètement ma tasse de thé, mais ce sont des exploitants véritables qui exploitent au bon sens du mot une production en cherchant à avoir des rapports, ce qui ne s'est pas fait dans le cinéma français, ce qui explique, ils ont pris une place qui aurait dû être faite par des autres. Moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, quand vraiment le système de salles se sera effondré en France, mais qu'à ce moment-là, on reconstruira d'une autre manière des salles de cinéma et que des chaînes comme Canal Plus deviendront des propriétaires de salles et qu'il y aura un autre système que l'Amérique qui ne fait que se répéter.
Le modèle français, etc., qui a des vertus, qu'il ne faut pas démolir complètement, doit être remis en cause, parce que de toute façon, des films se font avec beaucoup moins de moyens, se rentabilisent beaucoup plus facilement, se font en plus grande quantité, se diffusent partout, parfois même gratuitement, et il faut en tenir compte comme faisant partie de l'exploitation du film. Comment on prend ça en compte ? Pourquoi on ne fait pas de bilan sur les diffusions dans les salles alternatives? Pourquoi on ne fait pas de bilan sur les diffusions dans les médiathèques? Il y a sur Internet. Pourquoi tout ça n'existe pas? On te fait une commission en PACA des films sans diffuseur. Arrêtez, c'est une blague. C'est une blague, ça n'existe plus, les films sans diffuseur. Tu vois? À part peut-être quand tu diffuses, quand tu as un préachat de France 3. Personne ne les voit. Alors que par contre, ça t'ouvre plein d'aides au CNC parce que c'est l'industrie. Pourquoi les médiathèques, elles payent quasi jamais quand elles diffusent? Pourtant, il y a bien des gens qui vivent. Les festivals, il y a bien des gens qui vivent. Avec les subventions pour faire des festivals, il y a du public. Qu'est-ce que c'est les retombées économiques? On nous parle de l'image d'une ville. Qu'est-ce que c'est les retombées économiques de toute cette activité de création qui rend cette ville attractive?
Ma ville. Tu vois, les premiers froids ont chassé tes faux amis de passage. C'est la morte saison. Alors, tu me reviens. Sans grimace, sans grimage. Vivante. Marseille de tous les temps. Marseille de tous les jours.
Dargy, alors, l'avenir, qu'est-ce que tu as envie de monter comme projet, comme possible?
D'accord. C'est bien, attends, j'ai Fassbinder, là, je disais qu'il disait. Non, attends. Je suis terminé comme ça, non, mais c'est juste un petit larcène. Non, c'est juste, ça m'amuse juste, non, il disait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, par conséquent, il n'y a pas non plus d'avenir. Non, alors moi, je suis pas d'accord avec lui. Donc oui, en fait,
écoute, moi,
le truc qui se passe, c'est que je multiplie un peu les projets, là, c'est un peu la dispersion, c'est un peu les appels d'air aussi, des choses qui s'interpénètrent, qui se nourrissent les unes les autres. Après, c'est en termes de calendrier, comment agencer les choses, et aussi lancer des projets avec d'autres personnes. Ça, je trouve ça très bon, avec des musiciens, des personnes qui écrivent, d'autres qui font des films, enfin voilà. Donc chercher cette émulation-là, cette synergie, et puis aussi prendre du recul sur ce qu'on fait, c'est-à-dire fabriquer des images, des sons, se positionner, tout ça, la tête dans le guidon, c'est pas mal, mais bon, enfin, il faut prendre de la distance, et prendre de la distance aussi en prenant position, savoir un peu d'où on part, d'où on part, quoi, d'où on vient, d'où on part, et où on se situe pour aussi avoir une emprise sur ce que je disais hier, en fait, avoir une emprise sur notre propre façon de faire, que ça reste toujours en mouvement. Là, je deviens un peu...
Mais ton économie, tu la vois aussi sous des nouvelles formes? Tu parles de nouvelles formes dans des rapports.
Là, c'est le bordel, quoi, parce que là, je me suis mise dedans. Là, je dois 1000 euros à mon proprio, plein de sous à Bouygues. D'ailleurs, Bouygues, il faut arrêter. Non, enfin voilà, donc là, non, là, c'est une très mauvaise période parce que j'ai dépensé sans
demander au chargé de mission.
Non, comment faire? Je sais pas. Là, j'ai l'impression de lancer des choses, d'un peu voir comment tout ça va retomber, faire des dossiers, honnêtement, je sais pas c'est quel sens ça prend, quoi. C'est du temps que tu prends pour pas faire tes films. Je trouve ça un peu inquiétant. Je sais pas, toi par exemple, David, tu viens de prendre contact avec... Enfin, toi, tu étais à la recherche d'un producteur et tu fais... t'es concentré sur un film.
Et un deuxième qui a pour sujet ce qui se passe là. Mais moi, je me posais une question par rapport à ce qu'on dit sur l'indépendance. Du coup, il nous faut de l'argent, il nous faut des lieux. Je me disais, si on a l'argent, si on a les lieux, est-ce qu'on serait indépendant pour autant? Enfin, ça, elle passe aussi intérieurement pour moi, l'indépendance. C'est-à-dire, je me demande... Bon, pour mon premier film, j'ai eu de l'argent, donc il n'y a pas eu de souci. Mais c'est pas pour ça que j'étais indépendant. Il a été vu, mais c'est pas pour ça que j'étais indépendant. Là, je cherche à faire un film, mais l'indépendance, c'est plus vis-à-vis de moi que je la cherche. Enfin, c'est-à-dire, c'est de pas trop soit être dépendant de mes ambitions, soit être dépendant de vouloir que les autres aiment ce que je fais, vouloir trouver que ça beau, vouloir... Parce que quand on fait un film, forcément, on laisse paraître de soi, et quand on juge le film... En tant qu'auteur, des fois, on se le prend dans la gueule en se disant « oui, bon... Bah, »
Parle alors, bien devant le micro, oui. David.
D'accord, voilà. Du coup, on préfère qu'on dise « ah ben, t'as fait un beau film », comme ça, on se dit « ah, on est beau », alors... Si on dit « t'as fait un film qui est vraiment moche, qu'on peut pas aimer », là, c'est désagréable.
Non, on s'adresse toujours à un milieu, c'est ça que tu veux dire.
Que l'indépendance, elle devrait être vis-à-vis de ce qu'on fait, en fait. On n'est pas maître de ce qu'on fait, et on n'est pas maître de ce qu'on voit non plus, et qu'on est juste des espèces on transmet quelque chose.
Est-ce que tu as été satisfait sur ce qu'on t'a transmis sur ton premier film, sur ces questions-là?
Bah,
tu dis que non.
Là où j'étais dans un premier temps, j'étais déçu parce que je me suis dit, comme il a marché, bon bah, la suite ça va être sur du velours. Et en fait, je me rends compte qu'il va falloir, ça va être encore plus difficile. Et en même temps, je me dis que c'est bien parce que ça veut dire qu'il faut réinventer toujours. Et qu'en fait personne n'a la réponse, et que ceux qui ont l'argent, finalement, ils se posent les mêmes questions que nous, mais ils se disent, mais bon, on a une somme définie, à qui on va le donner? Donc forcément, ils essayent de mettre des critères.
Ils sont censés se poser les mêmes questions.
Ils sont censés se poser les mêmes questions. Et là où je suis satisfait, c'est que je retourne en Algérie début octobre, et que les gens avec qui j'ai fait le film, on prépare un autre film, et que on va peut-être faire un ciné-club, et que finalement ça va faire d'autres choses, d'être ici à Marseille, de vous rencontrer, qu'on se pose ces questions-là, qu'on mette en question nos pratiques. Bah, je trouve ça super riche parce que ça veut dire que on accepte de se remettre en question et de remettre en question le système tel qu'il est. Et à l'heure de la France sous Sarkozy, heureusement qu'on se permet ça, sinon on crève, quoi. Si on se dit pas nos pères nous ont menti, et ben on devient schizophrène. Du coup, qu'on se permette de dire ça, déjà, je trouve que c'est génial. Et pour ça, d'être à Marseille, ben c'est grandiose, quoi.
Ouais, y a plein de schizophrènes à Marseille, c'est bien.
Et puis il y a une chose aussi par rapport à l'histoire de la synergie, du collectif et tout ça, c'est qu'en fait, quand tu t'isoles, t'as tendance, on en parlait hier, de faire des films d'auteur, des films politiques, enfin voilà, faire des films politiques ou faire politiquement des films, c'est en fait tout d'un coup d'être avec d'autres, c'est être en éveil constant, être en remise en question constante et pas tourner en rond dans ta tête et pas être dans ton petit film, dans tes petits trucs, dans ton esthétique et toutes ces choses-là. Et ça, c'est, voilà, d'où mutualiser. Du temps ensemble, mutualiser
moi,
du matériel.
Je suis d'accord à fond sur tout ce que vous dites, mais moi j'en suis toujours confronté à la question économique quand même, quoi. Moi je sais que je suis là, je vois pas quels sont mes possibles économiques dans les temps à faire.
Je sais pas, par exemple, Suzanne disait qu'elle était au RSA, qu'elle s'était jamais sentie aussi libre tout à l'heure.
Bah, c'est vrai que concrètement,
moi je peux pas au RSA vivre.
C'est pragmatique, mais après c'est aussi très précaire. Je sais pas
pourquoi. Moi je peux pas.
Surtout que t'envoies un courrier un peu en retard.
Oui, voilà, c'est quelque chose qui peut être suspendu très vite.
Effectivement, c'est un peu l'économie.
Mais bon, moi je vis ça comme un luxe.
Oui, mais est-ce que t'es pas.
Et je plains les gens qui, hélas. Sont obligés d'accepter des boulots de merde et puis
mais moi je suis au RSA, tu vois, je peux pas vivre au RSA. Sinon je veux dire au RSA,
ouais,
je paye
sa consommation.
Ah mais je consomme, je paye tu payes est-ce que tu payes un loyer ou je sais pas, après on rentre dans des questions comme ça.
Non après c'est trouvé.
Et après comment tu dépenses pour acheter un ordinateur, pour acheter des cassettes, je veux dire peut-être qu'on y arrive mais on doit sûrement avoir des ressources et des amis à côté.
C'est difficile d'être cool, d'être détendu quand on est quand même dans une gestion matérielle qui
c'est pas une fin, moi je dis c'est pas une fin en soi, c'est au-delà. Si le RSA n'existe plus, t'imagines, donc ça met beaucoup de cinéastes de côté,
ça
quoi.
Sera terrible pour le cinéma français.
Voilà, et qu'est-ce que de cette réalité, qu'est-ce qu'on défend, quoi. Est-ce qu'on va défendre le fait de le RSA, c'est notre producteur numéro un. Est-ce que c'est une ligne
non,
à défendre?
Non, mais moi je pense pas tout ça. Je
non, je pense pas. Je parle pas de toi que uniquement. Ouais. Je parle de, tu vois, on n'est pas les seuls à être des précarités comme ça. Mais est-ce qu'on défend cette précarité en disant notre rôle c'est de défendre le RSA
ou est-ce que tu veux devenir un professionnel aussi?
Non plus. Mais qu'il y ait des entre-deux. Moi, je cherche pas à être un grand cinéaste. Je veux pas non plus être un précaire. Je veux qu'il y ait des entre-deux.
Que j'ai un bac. Ça serait quoi pour toi?
Il y a des opportunités quand même.
Que si je fais un film et que j'écris 14 dossiers, que j'ai plus que 2000 euros, ou alors je condamne complètement. Je sais pas, parce que là, j'en arrive à condamner complètement la télé, à condamner complètement les institutions. Et je me dis.
Mais en même temps, la télé, l'audience, elle chute. Les institutions, elles vont être mises en question. C'est pas...
Peut-être pas aussi vite que ça. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que peut-être ça va prendre plus de temps que ce qu'on croit aujourd'hui. Mais après, juste, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la télé, parce que je sais que je suis pas forcément d'accord avec certains d'entre vous, mais moi, je continue à croire que c'est essentiel d'utiliser la télé ou d'autres réseaux qui s'adressent en tout cas à un public le plus large possible.
Oui, mais sauf que c'est faux.
Et moi, je pense que c'est de la responsabilité des politiques d'exiger
des politiques.
Une qualité.
Ouais.
De ce qui passe à l'antenne, surtout lorsqu'il s'agit quand même du service public de télévision.
Est-ce que ils le font pas?
Non, ils le font pas. C'est quelque chose qu'on devrait.
Mais sinon, on devrait travailler à la télé.
On
devrait être programmateur à la télé.
Ouais. On devrait exiger des choses, on est complètement con sur ça.
Mais sur plein de choses, on est beaucoup... Ouais. Je veux dire, d'un point de vue du rapport au pouvoir, à la télé, aux institutions...
Oui, parce que la télé telle qu'elle est aujourd'hui, depuis des années, elle est inregardable. La télé est complètement obsolète. Si tu veux... Pour moi, certaines œuvres sont belles et passent à la télé. Elles sont noyées dans un ramassis de merde. Et donc, ce qui fait que la télé, pour moi, aujourd'hui, est inregardable. Toutes chaînes confondues, Arte la première...
Les petites télés locales et régionales ont plus de choses visionnables, quand même.
Ouais, et puis Fab, moi, je me souviens, juste en détail, je vais faire la vieille combattante, quand j'étais journaliste à France 3... Marseille. Je me rappelle une fois, il y avait un reportage qu'il fallait faire sur un jeune qui était mort dans une cité à Marseille. Et c'était en fait une marche funèbre ou une marche silencieuse. Et dans le reportage, je n'avais pas envie de continuer le flot de paroles qu'il y avait dans tout ce 7 minutes sur Marseille, où il y avait des jingles et paf, 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 on abattait les sujets. Et j'avais voulu respecter le silence et ne pas parler. Et je te jure que je n'avais pas parlé pourtant. Hein. Donc je n'avais pas fait grand-chose, puisque ce n'est même pas moi qui ai filmé. J'avais assisté au montage, j'avais écrit, j'avais quand même réalisé, on peut dire. Mais j'étais extrêmement fière et je sais que ça a touché beaucoup de gens. Par contre, ça a choqué mes collègues de boulot. Mais quand il y a quelque chose comme ça que tu fais et que ça a du sens et que ça touche autant de personnes, c'est quand même formidable. Alors peut-être des gens qui ont projeté des films devant des milliers de personnes ressentent la même chose. Mais moi, je crois qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment capacité, il y a moyen de faire
mais
des choses.
Quelque chose
à la
de populaire.
Télé.
Bah, et qui est important aussi.
Le silence parle.
Tu m'excuses, Suzanne, mais je n'y crois absolument pas.
Devant un match de foot.
Non, j'y crois pas parce que pour moi, c'est effectivement très beau ce que tu dis. Et la télé a rempli cette fonction-là pendant quelques années. La télé a été kidnappée par une bande de VRP blindés de fric. Non mais peut-être, il faut reprendre la télé par les armes. C'est une révolution à faire au niveau de la télévision. La télé, c'est un kidnap. Et il ne se passe rien à la télé. Si tu veux, effectivement...
J'ai vu que tu as été à Canal+.
C'est juste un c'est un outil.
Mais c'est un outil qui a été kidnappé. Ben et aujourd'hui, voilà, qui s'insère dans les cerveaux de millions de gens. Et aujourd'hui,
c'est
effectivement.
Pas que la télé, c'est tout c'est là où il y a.
Attends, la télé est un des vecteurs les plus puissants et le vecteur le plus puissant sur cette planète. Et qui, je veux dire, quand tu vois le boulot, effectivement, par rapport à des films qui peuvent être de qualité, etc., qui s'insèrent là-dedans, qui, je veux dire, quand tu as le cerveau, tu vois, qui est pris parce que la télé dégage, qui est une destruction du cerveau, si tu as quelque chose de qualité, où est sa place à l'intérieur de ça? Tu vois ce que je veux dire?
Ok, on n'a peut-être pas l'énergie. Moi, quand je t'entends, Lolo, dire « Moi, je veux plus les institutionnels, je veux plus les... »
J'ai pas dit « Je veux plus, finances. Je commence à les à condamner parce qu'ils me condamnent. »
Mais on est bien d'accord. Mais tu vois, moi, les rencontres que j'ai faites à l'USAS, bon, voilà, elles sont ce qu'elles sont, tout ce qu'on veut. N'empêche qu'il y a eu des vraies rencontres humaines et je veux dire, et des, par exemple, notamment une télévision de Lyon qui était vraiment, mais qui poussait le projet dans son côté le plus radical, le plus, et formellement, en termes formels aussi, des gens qui ont envie de prendre des risques, des gens qui ont envie de vibrer, des gens qui ont envie de faire vibrer leur chaîne et tout ça. Et moi, je pense qu'à un moment donné, je dis pas qu'on n'a pas toujours l'énergie d'aller encore vendre son projet, mais c'est juste qu'il faut pas... il faut se rendre visible, il faut être là. Et tu le disais toi-même par rapport à l'art, c'est tout ça, qu'est-ce que c'est, quoi.
Non, mais je suis d'accord. Après, je pense que tous les endroits sont... La télé, si on la réapproprie, elle peut devenir quelque chose d'intéressant, sauf qu'elle nous a échappé totalement. Mmh. C'est pareil pour les institutions. Donc finalement, ça nous renvoie à la question...
Formidable.
Oui, mais ça nous renvoie finalement... On va bientôt conclure. Il y a un bip, et moi, vu que... Il y a le téléphone, là. Quelqu'un peut venir répondre. Je ne sais pas qui c'est. Je ne répondrai pas. C'est peut-être quelqu'un, parce qu'on a dépassé 10-15 minutes. Non, mais juste peut-être pour conclure, c'est juste que... C'est la question aussi de comment on lutte, nous, en tant que cinéastes, pour défendre notre outil, quoi. Godard, il disait, quand ils avaient monté la politique des auteurs, lui, il disait maintenant, à l'époque, ce qui était important, c'est la question de politique. Et il dit maintenant, il a l'impression que les gens, ils ont retenu la notion d'auteur, quoi. Voilà, c'est un peu le style. Comment on défend? Parce que n'importe où, le cinéma peut être intéressant. Mais comment on le défend, notre outil, et le rapport au peuple ou à celui qui regarde?
Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a... préparer l'émission, on a regardé l'initiative de René Alliot, le Centre méditerranéen de la création. On a vu voilà, qu'il a été créé en 79, qu'en 84 il a terminé. Il y a l'expérience du polygone étoilé. Et que tout ça a été monté par des gens quand même qui ont eu une grosse activité militante, notamment dans les années 68. Et nous, on est une autre génération. Et on a l'impression que les choses se répètent et on doit se poser les mêmes questions que eux se sont posées quand ils ont monté ces lieux-là. Et là, on se demande, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on en est là. Et on a 10 émissions pour essayer de répondre à cette question. Et du coup, dans un mois, on sera au Portugal. Après, on sera au Maroc. Après, en Algérie. Et on va faire le tour de la Méditerranée comme ça. C'était la première.
Donc on vous donne rendez-vous le 3 octobre prochain, lundi 3 octobre, puisque ce sera tous les premiers lundis de chaque mois. Lundi 3 octobre à 22h, à la même heure que ce soir, avec plus ou moins d'avance ou de retard. Et à 5 minutes près.
Et restons des amateurs, surtout.
Ouais.
Ouais.
Merci.
On a j'ai un peu parlé fort, non, Laurent?
Ouais, un petit peu.
Je parle trop fort.
Et bonne nuit, il est 11h15.
Bonne nuit, tout le monde.
Bon, et vous pouvez retrouver quand même le lien sur
le site de Dérive.
Dentro de ti ospitale, oh con me che mai sovena, terra da fraternità, grandola di la morena, anche dai schina un amico. Thank God.